Puis l'événement arriva. À un certain endroit qui ne décelait aucun signe suspect, où la neige régulière et lisse paraissait indiquer en dessous un terrain solide, l'homme enfonça. Le trou n'était pas profond et il s'en tira en se mouillant seulement jusqu'à la moitié des mollets. Il n'en fut pas moins furieux et quand il se retrouva sur le sol ferme, il se mit à pester contre son mauvais sort. Il avait espéré atteindre le campement et rejoindre ses camarades à 6 heures. Cet accident le retarderait d'une heure, car il lui fallait reconstruire un nouveau feu pour y sécher ses chaussures. C'était là une nécessité impérieuse par cette basse température, il ne le savait que trop. Il se dirigea donc vers la berge du cours d'eau qu'il gravit. Le bois, par bonheur, était abondant. Là encore, les grandes eaux du printemps avaient, sous les sapins, amassé un dépôt de bois mort. Il y avait de fines herbes sèches et de menues brindilles, et aussi des tas de branches et de bûches de toutes dimensions. Il commença donc par étaler et ranger sur la neige un certain nombre de grosses bûches pour servir de foyer à son feu et empêcher la jeune flamme de se noyer dans la neige fondue. Puis il opéra comme précédemment en grattant une allumette sur un petit morceau d'écorce de bouleau et en alimentant la flamme tout d'abord avec des touffes d'herbes desséchées et des brindilles. Accroupi sur la neige, l'homme procédait méthodiquement et sans hâte avec la pleine conscience du danger qu'il courait. Graduellement, à mesure qu'elle grandissait, il jetait à la flamme des bouts de bois de plus en plus gros. Il était certain de réussir ainsi. Et réussir était indispensable. Lorsque le thermomètre est à 107 sous zéro, il importe de ne point commettre d'impair en construisant son feu, surtout si l'on a les pieds mouillés. Avec les pieds secs, si l'on échoue, il suffit pour les réchauffer de courir sur sa piste pendant un demi-mille. Mais à cette température, lorsque les pieds sont mouillés et en train de geler, le procédé est contre-indiqué, car plus rapide est la course et plus fort les pieds gèleront. Tout cela, l'homme le savait. Le vieux père, dans sa cabane sur le Sulphur Creek, l'en avait averti, et il appréciait maintenant ses avis. Déjà, il ne sentait plus ses orteils, et comme il l'avait dû, de nouveau, pour construire son feu, sortir ses mains des mitaines, ses doigts, eux aussi, commençaient à geler. Tant qu'il avait marché à l'allure de 4000 à l'heure, la circulation du sang, du cœur aux extrémités s'était accomplie normalement. Mais à l'instant précis où il s'était arrêté, le sang avait fait de même. Comme le chien, le sang redoutait le froid et s'en cachait, fuyant les extrémités plus exposées du corps de l'homme pour se retirer au tréfonds de son être. L'homme sentait, sur toute la surface du corps, sa peau se refroidir. Mais la vie n'était pas entamée en lui. Le feu commençait à flamber superbement. Le moment approchait où il allait pouvoir l'alimenter avec de grosses bûches. Alors, il enlèverait ses chaussures et, pendant qu'elles sécheraient, il réchaufferait ses pieds au brasier, non sans les avoir au préalable, selon le rite coutumier, frictionnés avec de la neige. Non, sa vie n'était pas entamée. Il songea au vieux père sur le Sulphur Creek et sourit. L'ancien lui avait, très sérieusement, exposé que nul homme au Klondike ne devait s'aventurer à voyager seul, au-delà de 50 degrés sous zéro. C'était une loi absolue. Et cependant, lui, il était ici. Un accident était survenu et, tout seul qu'il fût, il s'était tiré d'affaire. Ces vieux, pas tous, mais certains d'entre eux, ont des âmes de femmes. L'essentiel est de garder ses idées nettes. Alors, tout va bien. Un homme digne de ce nom doit pouvoir voyager seul. Tout de même, il était surprenant que ses doigts eussent si vite recommencé à s'engourdir. C'est à peine s'il pouvait saisir une brindille. Il semblait ne plus faire partie de son corps. Lorsqu'il prenait quelque chose, ses yeux devaient contrôler s'il la tenait ou non. Mais qu'importait, au fond? Le feu aussi était là, claquant et craquant, et chacune de ses flammes qui dansaient dans l'air gelé était de la vie. L'homme se mit en position de délacer ses mocassins. Ils étaient recouverts d'une croûte de glace. Les bas, épais, de fabrication allemande, qui lui enserraient les mollets, étaient roides comme des fourreaux d'acier. Les lacets des mocassins ressemblaient, eux aussi, à des fils d'acier, tout noirs et tordus, comme s'ils avaient passé par quelque incendie. Il tira dessus, pendant un instant, avec ses doigts gourds, puis, se rendant compte qu'ainsi il cherchait l'impossible, il tira son couteau de sa gaine. Mais, avant qu'il pût couper les lacets, le second événement arriva. Ce fut de la faute de l'homme. Il avait commis une grave erreur en établissant son feu sous un sapin. Un feu doit être construit à découvert, mais la place lui avait paru plus confortable. Or, Le sapin était chargé jusqu'à son faîte d'une épaisse carapace de neige. Le vent, depuis plusieurs semaines, n'avait pas soufflé, la neige s'était accumulée et chaque branche portait tout ce qu'elle pouvait soutenir. L'homme avait, pour les jeter sur son brasier, brisé quelques branches basses et, ce faisant, communiqué à l'arbre une imperceptible agitation. Elle avait été suffisante cependant pour rompre l'équilibre de la couche neigeuse et provoquer le désastre. Ce fut d'abord au faîte de l'arbre une branche qui renversa sa charge de neige. La neige tomba sur la branche qui était au-dessous et à son tour celle-ci culbuta son faîte. La chute continua, silencieuse et rapide, d'échelon en échelon. Puis, comme un bloc, la blanche avalanche s'abattit sur l'homme et sur son feu. Du brasier rougeoyant, plus rien, la seconde d'après ne restait. Plus rien qu'un lit informe de neige fraîche étalée. L'homme en fut terrifié, terrifié comme s'il venait d'entendre prononcer sa condamnation à mort. Pendant un moment, il resta, les yeux fixés sur place du foyer disparu. Puis il redevint maître de lui et très calme. Peut-être le vieux père lui avait-il dit vrai. S'il avait eu avec lui un compagnon de piste, le danger aurait assurément été moindre. Ce compagnon l'aurait aidé à reconstruire le feu et son intervention n'eût pas été superflue. Mais puisqu'il était seul, seul aussi il reprendrait la besogne. Et mieux averti, il éviterait semblable catastrophe. Sans doute il y laisserait quelques doigts de pied qui achèveraient de geler le temps que le second feu fût prêt. Mais qui pouvait-il? Voilà ce qu'il pensait. Cependant, il ne s'attarda point à d'inutiles réflexions. Tout en roulant ses pensées, il s'était remis au travail. Il établit de nouvelles fondations pour son feu, à découvert cette fois, là où aucun arbre traître ne déverserait sa neige sur lui pour l'éteindre. Il redescendit ensuite sur la berge du fleuve afin d'y accueillir herbes sèches et brindilles. Ses doigts étaient devenus si gourds qu'il ne pouvait s'en servir pour trier sa récolte et qu'il dut prendre pêle-mêle à grosses poignées tout ce qui lui tomba sous la main. Il recueillit de la sorte beaucoup de brindilles pourries ainsi que des touffes de mousse verte qui s'y entremêlaient et qu'il eût fallu enlever. Mais il ne pouvait faire davantage. Il procédait aussi méthodiquement que tout à l'heure, mettant de côté les plus gros morceaux de bois afin de les employer seulement quand le feu aurait pris. Le chien, pendant ce temps, assis sur son derrière, ne le quittait pas du regard, une ardente convoitise brillant dans ses prunelles, car l'homme était pour lui le pourvoyeur du feu qui commencerait bientôt à flamber. Ses préparatifs une fois terminés, l'homme chercha dans sa poche une autre lamelle d'écorce de bouleau. Il savait que cette lamelle s'y trouvait et, en effet, tandis qu'il farfouillait dans l'étoffe, il entendait le froissement de l'écorce. Mais ses doigts ne sentaient rien et, en dépit de ses efforts, ne parvenaient pas à la saisir. Il avait également conscience que, pendant ce temps, ses pieds continuaient à geler. À cette idée, il se sentit étreint d'une véritable angoisse. Mais il raidit sa volonté et conserva son calme. À l'aide de ses dents, il renfila ses mitaines, battit des mains contre ses côtes, fit aller ses bras en avant et en arrière. Puis il s'asseyait et se relevait. Le chien le regardait faire, toujours assis dans la neige, le panache de sa queue touffue enroulé sur ses pattes de devant comme un manchon, les oreilles pointées en avant, intéressé et curieux. L'homme, de son côté, tout en continuant à se battre les flancs et à taper ses mains, regardait le chien et il enviait la chaude couverture de poils que la nature avait donnée à la bête. À force de se démener, l'homme perçut à la fin que ses doigts redevenaient sensibles. C'était comme un picotement bienfaisant qui ne tarda pas à se muer en une cuisson atrocement douloureuse, mais qui l'accueillit avec joie. Il arracha la mitaine de sa main droite et se remit à fouiller dans sa poche pour y prendre l'écorce de bouleau. Il y réussit, non sans peine, et se saisit également de son paquet d'allumettes. Mais le formidable froid avait déjà chassé la vie de ses doigts. Cependant qu'il s'efforçait de séparer des autres une allumette, tout le paquet chuta dans la neige. Il tenta de ramasser les petits bouts de bois soufrés. En vain, ses doigts inertes ne réussissaient pas à les saisir. Il chassa de son esprit la pensée que ses pieds, son nez et ses pommettes achevaient de geler définitivement et, de toute son âme, banda sa volonté vers la conquête des allumettes. Avec d'infinies précautions, il se pencha et, suppléant par la vue au sens du toucher qui faiblissait, il amena sa main ouverte au-dessus du petit tas. Alors, il la referma, ou plutôt, il tenta de la refermer. Car les doigts refusèrent d'obéir. Entre eux et la volonté, la communication était coupée. il remit sa mitaine. Puis, de ses deux mains ainsi protégées, il ramena les uns sur les autres les petits bouts de bois et, par un travail infini, les enleva dans ses deux paumes, comme on fait d'une eau que l'on veut boire. Cela, non sans emporter en même temps beaucoup de neige. Il leva le tout vers sa bouche et, faisant craquer d'un violent effort la muselière de glace, desserra ses lèvres. Rentrant alors la mâchoire inférieure, il tenta avec la supérieure de séparer les allumettes. Il parvint à en isoler une qui tomba par terre. Il n'en était pas beaucoup avancé. Il eut une excellente idée. Se courbant sur l'allumette, il la prit dans ses dents, puis la frotta le long de sa cuisse. Après 20 essais infructueux, le soufre se décida à s'allumer. Tandis qu'elle s'enflammait, il l'approcha, la tenant toujours dans ses dents, de l'écorce de bouleau. Mais le soufre qui brûlait lui monta aux narines et, gagnant les poumons, le fit tousser spasmodiquement. Il desserra les dents, l'allumette tomba dans la neige et s'y éteignit. Le vieux type de la rivière du soufre avait décidément raison, songea l'homme, cependant qu'il se sentait envahi par un désespoir qu'il maîtrisait encore. Au-delà de 50 degrés sous zéro, on ne doit point voyager seul. Il réitéra pourtant avec les mêmes gestes ses battements de mains et de bras, mais cette fois, aucune sensation de vie ne reparut. Brusquement, enlevant ses mitaines avec ses dents, l'homme découvrit ses deux mains. Entre elles deux, il saisit le paquet d'allumettes. Les muscles de ses bras, qui n'étaient pas encore gelés, lui permirent ce double mouvement. Puis, serrant fortement les deux mains, il frotta sur sa cuisse tout le paquet. Une flamme unique en jaillit. Les 70 allumettes s'allumaient d'un seul coup. Il n'y avait point de vent pour les éteindre et, tenant sa tête de côté, afin d'éviter la suffocation du soufre enflammé, l'homme approcha ce feu ardent de l'écorce de bouleau. Il lui sembla, à ce moment, percevoir aux paumes une étrange sensation. C'était sa chair qui brûlait. Elle brûlait assez profondément sous l'épiderme pour qu'il en sentît la douleur. La douleur s'intensifia et l'homme, cependant, l'endurait, tenant le petit faisceau de flamme au-dessus de l'écorce de bouleau posée sur la neige. Mais il faisait cela maladroitement et le bouleau continuait à refuser de s'allumer, tandis que les mains de l'homme continuaient à brûler. Enfin, n'y pouvant plus tenir, il lâcha tout. Les allumettes tombèrent en grésillant dans la neige. Quelques-unes pourtant atteignirent l'écorce de bouleau, qui flamba. Sur cette flamme, l'homme se mit à étendre ses herbes sèches et ses menues brindilles. Il les ramassait, tant bien que mal, entre les deux paumes de ses mains. S'il rencontrait du bois pourri ou de la mousse verte, adhérant aux brindilles, il les éliminait avec ses dents, tout cela fort gauchement, mais avec une inlassable ténacité. Que cette flamme vécût ou s'éteignît, cela signifiait pour lui ou la vie ou la mort. Il sentait le sang se retirer de plus en plus de la partie extérieure de son corps, et il en éprouvait un tremblement qui ne faisait qu'aggraver sa maladresse. Une grosse touffe de mousse verte tomba soudain en plein sur le petit feu de l'homme. Du bout de ses doigts, il tenta de l'enlever. Mais le tremblement qui l'agitait tout entier provoqua un mouvement trop brusque, qui déplaça le centre du feu. En sorte qu'herbes sèches et brindilles, éparpillées, cessèrent de flamber. Il s'efforça de les rassembler de nouveau. Son tremblement l'emporta sur sa volonté. Des petites brindilles dispersées monta une dernière fumée et tout s'éteignit. L'allumeur de feu avait échoué. Comme l'homme jetait autour de lui un regard apathique et vague, ses yeux rencontrèrent le chien qui se tenait en face de lui, toujours assis dans la neige, de l'autre côté du petit foyer ruiné. La bête sentait elle aussi le froid l'envahir. Elle arrondissait le dos et l'abaissait, en hérissant son poil, et pour les réchauffer, levait successivement en se dandinant ses pattes de devant. Cette gymnastique n'arrêtait point. La vue du chien fit naître dans la tête de l'homme une idée sauvage. Il se remémora l'histoire de ce voyageur qui, pris dans une tourmente de neige, tua un jeune taureau qu'il rencontra et qui, s'abritant dans les entrailles chaudes, fut ainsi sauvé du gel et de la mort. Il ferait comme lui. Il tuerait le chien, puis enfouirait ses mains dans le cadavre encore chaud, jusqu'à ce que leur engourdissement disparût. Alors il tâcherait de retrouver quelque allumette dans une de ses poches et reconstruirait une troisième fois son feu. Il parla au chien et l'appela. Mais si pleine d'émotion était sa voix, tellement elle tremblait, que la bête, qui jamais ne s'était entendue parler de la sorte, s'effraya. Cette voix cachait un danger, lequel elle l'ignorait. Mais le danger était certain et l'instinct lui disait de se défier de l'homme. Les oreilles aplaties et sans cesser d'arrondir le dos et de battre le sol de ses pattes, le chien refusait de se rendre à l'appel. L'homme se mit alors à quatre pattes et, sur les mains et les genoux, rampa vers l'animal. La défiance du chien, devant cette posture inaccoutumée, s'accrut encore et, l'air hargneux, il se défila sournoisement. L'homme se releva. Il ne voulait pas perdre son calme. Il regarda le sol afin de s'assurer s'il était vraiment debout, car il ne sentait plus ses pieds et n'eût pu dire s'il touchait la terre. Le chien, cependant, s'était rassuré en voyant que son maître avait repris sa position verticale. Et quand une voix impérieuse qui claquait comme une mèche de fouet lui parla de nouveau, il retrouva sa soumission coutumière et s'avança. Dès que le chien fut à sa portée, l'homme, à demi-fou d'espoir, ouvrit les bras et, se baissant, les lança vivement autour de la bête. Mais il avait oublié ses doigts, qui gelaient de plus en plus. En vain tenta-t-il de les agripper au poil, il ne lui obéissait plus. La scène s'était déroulée très rapidement, et, avant que le chien eût pu s'échapper, l'homme le tenait solidement dans ses bras, comme dans un étau. L'animal grognait, geignait et se débattait. L'homme, qui s'était assis dans la neige avec son prisonnier, le maintenait étroitement serré contre son corps. Mais c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il comprit qu'il ne pourrait pas tuer le chien. Il ne disposait pour cela d'aucun moyen. Ses mains impuissantes ne lui permettaient ni de dégainer et de tenir son couteau, ni d'étrangler la bête. Il la relâcha. D'un bond affolé, le chien se sauva, la queue entre les jambes, et grondant toujours. À une quarantaine de pas, il s'arrêta, les oreilles pointées en avant, observant ce qui allait se passer. L'homme regarda ses mains inertes. Elles pendaient au bout de ses bras, complètement mortes. Elles n'existaient plus pour lui que par la vue. Il avait simplement, par moments, l'impression vague de deux poids très lourds, suspendus à ses poignets. Alors, une appréhension de la mort, obscure, opprimante, commença à s'emparer de lui. À mesure qu'il se rendait compte qu'il ne s'agissait plus de perdre son nez, ses mains ou ses pieds, mais que sa vie même était en jeu, sa peur grandissait. Il regagna le lit de la rivière et, toujours courant, se remit à suivre la piste abandonnée. Sur ses talons, réglant son trot sur l'allure du maître, le chien reprit son escorte. L'homme courait aveuglément, sans but conscient, envahi d'un effroi qu'il n'avait encore jamais connu. Il allait, sans rien voir, puis peu à peu, tout en labourant la neige de ses mocassins, il recommença à discerner les objets autour de lui, les berges du creek, la piste mal tracée, les peupliers dénudés et les sapins noirs, et le ciel au-dessus de sa tête. Il lui sembla qu'il se sentait mieux. L'effort de la course avait ramené en son corps quelque chaleur. S'il pouvait la continuer assez longtemps, il atteindrait le campement et rejoindrait ceux qui l'attendaient. Là, il serait bien soigné et les camarades sauveraient de lui ce qui n'était pas encore entièrement gelé. Mais une autre pensée surgissait. Non, non, il n'arriverait jamais au campement. Trop de milles l'en séparaient. Trop profondément le gel l'avait mordu. Bientôt, il tomberait raide mort. Cette pensée, il s'évertuait à la chasser. Il refusait de s'y arrêter, de la considérer en face. Mais toujours plus poignante, elle s'imposait, se vrillait en lui. De toutes ses forces, il la repoussait, s'efforçant de songer à d'autres choses. Il lui semblait extrêmement bizarre de pouvoir courir, comme il le faisait, sur des pieds totalement gelés. Si gelés qu'il ne les sentait même pas toucher le sol. Son corps ne paraissait point peser sur eux. Il effleurait la neige sans ressentir le contact. L'homme avait vu jadis, quelque part dans une ville, une statue de Mercure ailée. Il se demandait si ce Mercure n'éprouvait pas la même sensation que lui donnait cet effleurement du tapis de neige. Il était fou, à la vérité, de prétendre atteindre le campement en courant ainsi. Comment s'imaginer que ses forces affaiblies ne le trahiraient pas? Plusieurs fois déjà, il avait trébuché. Finalement, il chancela, contracta ses muscles pour rétablir son équilibre, puis tomba. En vain, l'homme essaya de se relever. Il était à bout. Il s'assit donc sur la neige et décida de se reposer quelque temps avant de continuer son voyage, mais cette fois sans courir. Tout en reprenant haleine, il constata que si son nez, ses joues, ses pieds, ses mains demeuraient insensibles, une bonne et confortable chaleur ardait dans sa poitrine. Pour agréable que fût cette sensation, elle était surprenante. Ayant réfléchi, il conclut que le gel de son corps devait s'étendre. Des extrémités des membres et des membres eux-mêmes, le sang refluait vers la poitrine et vers le cœur. Pensée terrible qu'il tenta de refouler et d'oublier. Car il sentait bien qu'elle arriverait à faire renaître en lui l'affolement. Et plus que tout, il redoutait cela. Mais la pensée s'affirmait, obsédante, et persistait si bien qu'il eut tout à coup la vision de son corps totalement gelé. C'en était trop. Comme mu par un ressort, il se remit debout et reprit sur la piste sa course éperdue. Un moment, le temps d'un éclair, il redevint maître de lui. Il ralentit son allure et se remit à marcher pour mieux ménager ses forces. Mais la vision de tout son corps gelé s'imposa presque aussitôt à son cerveau et le fit courir de nouveau. Derrière lui, à même allure, le chien suivait. Lorsque, pour la seconde fois, l'homme tomba, l'animal s'assit, comme il l'avait déjà fait, sa queue repliée sur ses pattes, les yeux ardents et attentifs. Le calme de la bête irrita l'homme, qui se mit à l'injurier. Le chien se contenta de coucher légèrement les oreilles. L'homme grelottait de tous ses membres. Visiblement, il était en train de perdre la bataille. Le froid gagnait partout sur son corps. Il eut un dernier sursaut d'énergie et se remit à courir. Mais il n'alla pas plus bien loin. 2 minutes après, il chancela et tomba la tête en avant, s'étendit tout de son long sur la neige. Ce fut d'abord une stupeur. Puis, dès qu'il eut repris le contrôle de lui-même, il s'assit et la conception lui vint qu'il devait mourir avec dignité. Il se dit qu'il avait agi en insensé. Il se compara à un poulet qui, la tête coupée, continue à remuer les pattes. Oui, il fit cette comparaison. Puisqu'il était condamné à geler et que c'était irrévocable, il pouvait aussi bien accepter décemment l'épreuve. Une grande paix résulta pour lui de cette résolution, cependant qu'il sentait une somnolence le gagner et sa tête vaciller. C'est, après tout, songea-t-il, une sensation délicieuse de s'endormir dans la mort. C'est comme si l'on avait absorbé un anesthésique. La mort par congélation n'est pas aussi affreuse qu'on le disait. Il y avait d'autres façons, bien pires, de mourir. Une hallucination s'empara de lui. Il voyait les camarades chercher, le lendemain, son cadavre. Il explorait la piste en leur compagnie et se cherchait lui-même. Avec eux, il suivait le lit glacé de la rivière et soudain, à un coude de la vallée, il trouvait son corps, étendu sur la neige. Il songeait alors qu'il avait dû faire grand froid. Quand il serait de retour aux États-Unis, il pourrait raconter aux gens ce qu'était un vrai froid. Puis cette vision s'effaça, remplacée par une autre. Cette fois, il se trouvait avec le vieux bonhomme qui avait sa cabane sur le Sulphur Creek. Il le voyait nettement au chaud et confortable en train de fumer une pipe. « Tu avais raison, » lui murmurait-il. « Tu avais raison, vieux père. » L'homme s'assoupit alors, en un sommeil qui lui parut être le meilleur qu'il eût jamais connu. Assis, en face de lui, le chien attendait. Le jour bref se mourait en un long et grisâtre crépuscule. Aucun indice ne marquait que le maître s'apprêta à construire un feu. Il s'en étonnait dans son cerveau de chien. Dans sa fruste mémoire, rien n'évoquait le souvenir d'un homme assis, sans feu, dans la neige, par semblable température. Avec la fin du crépuscule et la nuit qui montait au ciel, la froidure augmenta encore. Le chien se mit à gémir doucement et recommença à faire aller sur place ses pattes de devant tout en couchant les oreilles, car il craignait une réprimande de l'homme ou un coup de fouet. Mais l'homme ne bougeait pas ni ne parlait. Le chien gémit plus fort, puis il rampa vers le maître et flaira l'odeur de la mort. Les poils hérissés, il recula. Quelques moments encore, il resta à cette même place, hurlant aux étoiles qui vacillaient dans l'air glacé. Puis il fit volte-face et, remontant au trot la piste qu'il avait en venant suivi avec l'homme, il s'en retourna vers quelque autre maître qui pourvoirait à sa nourriture et lui allumerait un feu. C'était « Construire un feu » de Jack London.